Dans les évangiles, Jacques figure en tête de liste des demi-frères du Seigneur. Mais à cette époque, il ne croyait pas en lui. Ce ne fut qu'après la résurrection qu'il devint disciple, lorsque Jésus lui apparut. Pendant les jours qui précédèrent la venue du Saint-Esprit, la mère et les frères de Jésus se trouvaient avec les disciples à Jérusalem. 14 ans plus tard, Jacques était l'un des chefs de l'Église, et par la suite, il présida le premier concile de Jérusalem. Selon la tradition, Jacques subit le martyre lors d'une émeute de la population juive en 62 après Jésus-Christ. L'auteur de l'épître de Jacques ne se présente pas comme apôtre, mais se nomme simplement Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Sa lettre est probablement le plus ancien écrit du Nouveau Testament. Elle s'adresse aux Juifs convertis et aux chrétiens qui vivaient à l'étranger. Le thème en est la vraie foi. La foi chrétienne authentique, dit Jacques, se manifeste par une conduite juste et charitable. Elle se soumet à Dieu, fait preuve de patience et recourt sans cesse à la prière. Jacques exhorte les croyants à rechercher les vraies valeurs et à appliquer les principes chrétiens à tous les domaines de la vie. Afin d'encourager ceux qui subissaient l'épreuve, l'auteur parle des aspects positifs de la souffrance dans la vie du croyant. Il faut savoir que la foi, ainsi mise à l'épreuve, produit la patience, qui, elle, conduit à une vie spirituelle accomplie. La sagesse d'en haut, que Dieu donne libéralement à celui qui la demande avec foi, permet de supporter patiemment l'épreuve et de recevoir la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Alors, dit Jacques, il faut résister fermement à la tentation, sachant qu'elle ne provient jamais de Dieu, mais qu'elle trouve sa source dans les convoitises du cœur humain. Dieu est l'auteur du bien. Toute grâce et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, qui ne change jamais. C'est lui qui, par sa parole, nous a régénérés pour la vie éternelle. Jacques exhorte le croyant à se soumettre à cette parole de vérité, en rejetant le mal et en recevant avec douceur la loi parfaite de Dieu. Car la parole, dit-il, agit comme un miroir, en montrant l'homme à lui-même tel qu'il est. Il faut donc la mettre en pratique et ne pas se borner à l'écouter seulement. La foi qui honore le Seigneur s'exerce par un égal respect envers tous, riches et pauvres, sans distinction. C'est ainsi que vous accomplirez la loi royale, affirme Jacques, celle qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Une foi vivante produit des œuvres bonnes, preuve de son existence. Elle se manifeste dans les actes de tous les jours. La foi qui est morte se contente de paroles seulement. Jacques en donne un exemple frappant. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, dit-il. Tu fais bien. Mais les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Puis l'auteur passe au péché de la langue. « Comme un petit feu peut embraser une grande forêt, dit-il, de même la langue, ce petit membre enflammé par l'enfer, peut embraser tout le cours de la vie. L'eau douce et l'eau amère, poursuit Jacques, utilisant une autre image, ne peuvent couler d'une même source. Ainsi, la bénédiction et la malédiction ne doivent sortir d'une même bouche. Celui qui sait dompter sa langue est un homme accompli, capable de tenir tout son corps en bride. Il y a deux sagesses, celle du monde, profane, terrestre, maléfique, et celle d'en haut, qui est pure, pacifique, modérée, produisant de bons fruits, sans duplicité. C'est pourquoi il faut refuser de se laisser emporter par les passions du monde. Résistez au diable, dit Jacques, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Ne parlez pas mal les uns des autres, car Dieu seul est juge. Soyez patients dans l'affliction, comme l'étaient les prophètes. Ne faites pas de serment, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Dans la souffrance, priez les uns pour les autres, car la prière du juste, faite avec ferveur, a une grande puissance. Pour finir, l'auteur exprime la joie du chrétien qui ramène à la foi le pécheur égaré. Nous parlerons demain du deuxième voyage missionnaire de Paul.